Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire. Le confinement est terminé, mais nos auteurs sont toujours à la campagne, ou en tout cas loin de Paris. Et aujourd'hui, je suis au téléphone avec Aurélien Ducoudray, qui est un scénariste de bande dessinée bien connu, prolifique. Il a dans sa bibliographie de très nombreuses séries et de très très beaux albums. Je suis avec lui pour parler de la sortie du deuxième et dernier volume d'une série qui s'appelle Camp Poutine. Voilà une série que j'aime énormément et que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter le début, en tout cas le pitch de Camp Poutine? Vous tenez à dire que c'est une fiction, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses très documentaires et très documentées dans cette histoire d'adolescent.
Oui, c'est vraiment une fiction, même s'il y a Poutine dans le titre et que Poutine, j'allais dire, malheureusement, existe vraiment. Je ne veux pas le dire. Non, Camp Poutine, c'est l'histoire de plusieurs adolescents qui partent en camp de vacances en Russie. Et c'est des camps de vacances qui sont un peu spéciaux, car c'est des camps de vacances militarisés. C'est-à-dire que des enfants vont jouer à faire semblant de faire la guerre. Pour nous, ça nous paraît complètement hallucinant qu'on puisse envoyer des gosses dans des camps, parce que ça rappelle plutôt des imageries plutôt de la Deuxième Guerre mondiale, avec des jeunesses italiennes, ces trucs-là. Ces camps existent actuellement en Russie. Alors, tous ne sont pas du même niveau. Il y en a qui sont plus légers, qui sont avec des armes factices. Par contre, il y en a d'autres qui sont avec des armes véritables, ou carabins blancs. Et c'est une espèce d'endoctrinement, on va dire, ludique, qui nous, Européens, nous choque beaucoup. Mais moi, j'ai discuté avec plusieurs personnes d'origine russe qui, eux, ne les choquent pas du tout. Ils disent que les enfants vont passer de bonnes vacances à s'amuser. Un sujet assez ambivalent, en fait.
Ça peut nous paraître à nous un peu étonnant, mais c'est aussi une tradition assez ancienne de l'URSS communiste, ces camps de jeunes. Il y avait les camps de pionniers, les camps pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons. C'était aussi un moyen de faire rentrer l'idéologie dans la tête de ces plus jeunes.
Ça fait aussi penser aux partisans en Yougoslavie. Mais à l'heure actuelle, il y a d'autres pays qui sont un poil moins communistes, qui le font aussi. Je sais qu'en Corée du Sud, ils sont très très portés là-dessus. Et les camps en Corée du Sud sont bien plus durs que les camps en Russie. En Ukraine, après des événements de conflits contre l'URSS qui durent toujours, les camps ont fleuri très très vite et se sont durcis vraiment très fort. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est une tradition, mais disons que c'est une pratique qui permet d'adjoindre un peu de propagande, beaucoup d'éducation et puis de passer des vacances amusantes pour les enfants.
Ce qui choque aussi notre mentalité, on va dire, d'Européens de l'Ouest, pour faire court, c'est que dans l'histoire que vous racontez, ce sont des adolescents, ils ont entre 12, 13, 14, 15 ans peut-être, au grand maximum, mais il y a aussi des très petits, et notamment je pense à cette petite fille qui doit avoir 7-8 ans, grosso modo, qui se perd à un moment donné dans la ville, dans un village. Est-ce que ça, c'est une chose que vous avez inventée, ou est-ce que vous l'avez vraiment lue?
Ah ouais, alors en plus, moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai inventé, hein. J'ai regardé un documentaire qui s'appelle Un été avec Anton, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui doit avoir 10-12 ans. Sa grand-mère lui paye des vacances au camp, et lui, il est très très content. Il sait qu'il va pouvoir aller s'amuser. Et du coup, on le suit pendant les un mois ou deux dans le camp. Et c'est très amusant de voir, enfin amusant, c'est plutôt effrayant de voir la façon dont ce petit garçon se transforme complètement et qu'il avale sans discernement tous les éléments de propagande. Il a, le documentaire se passait à une période où la Russie était en conflit avec la Tchétchénie, donc il y avait une propagande anti-tchétchène qui était extrêmement virulente, et il leur montrait des vidéos d'attentats réalisés par les Tchétchènes, ou des images manipulées aussi. Et du coup, là, on est de plein pied dans une espèce de préparation idéologique à un conflit.
Vous le disiez, ces camps, ce sont des vrais camps militaires. Hein. Il y a des armes, des entraînements, des brimades, des punitions. On dort à la dure, on vit à la dure. C'est un contexte assez violent, on peut le dire comme ça. Et grâce au dessin d'Anne-Laure, qui est un dessin très vivant, très coloré, très énergique, l'histoire devient très équilibrée. On évite vraiment de sombrer dans une espèce de frayeur à voir cette histoire qui nous paraît insensée.
Ouais, c'est indispensable d'avoir un dessin qui ne nous emmène pas vers quelque chose de dépressif ou quoi. Même le récit, moi je fais très attention. Bon, j'ai un sujet comme ça qui est très difficile. Il faut absolument le traiter avec beaucoup de légèreté et avec de l'humour. Moi, le but de ce sujet, c'est pas de montrer que ces camps sont terribles, parce que ça, voilà, trois lignes dans une brève à l'AFP, on a tout de suite compris que c'était une catastrophe. Non, moi, l'idée, c'était de montrer que malgré le fait que ce soit quelque chose de dur, les enfants y vont et passent des vacances fantastiques. Mm-hmm. Les mômes qui déboulent, ils se disent on va se marrer, quoi. On va passer un mois à jouer à la guerre, à faire semblant. Et on va vraiment, vraiment se marrer. Et moi, j'aime bien traiter des sujets comme ça, qui peuvent paraître très durs, et me mettre au niveau des personnes qui les vivent. Là, les gosses, ils n'ont pas conscience qu'on est en train de les préparer psychologiquement à une guerre ou à éprouver de la haine contre certains pays. Eux, ils sont là vraiment pour s'amuser, et ils jouent. Pour eux, c'est les cow-boys et les indiens. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est pas la même imagerie. Hein. C'est que là, du coup, c'est du mujahideen contre les soldats russes. Mais au final, ça revient au même.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que il y a des filles et des garçons, tous les âges et les sexes sont mélangés. C'est pas des camps séparés, malgré l'idée qu'on pourrait avoir d'un camp militaire.
Il y a un mélange filles et garçons. Moi, j'ai croisé aussi ce documentaire que j'avais vu avec d'autres, des sources photographiques et quelques articles journalistiques, et il y avait filles et garçons mélangés. Et ça posait aucun souci. Et moi, j'ai vu des photos absolument sublimes avec des jeunes filles avec des fleurs dans les cheveux et puis ici, Kalachnikov à la main. C'est compatible.
Alors, le camp Poutine que vous décrivez, c'est un camp qu'on pourrait dire qu'il est un peu crapoteux, c'est un peu crade, où les enfants dorment soit dans des vieilles tentes ou dans des cabanes en rondins. Ils mangent un peu n'importe quoi. Il y a un animal, un cheval, qui est maltraité par un gamin demi illettré. Et malgré tout ça, l'énergie des enfants et le dessin d'Anne-Laure fait qu'il y a un petit côté perpéret, un petit côté colonie de vacances.
Ouais, en même temps, ces camps qui sont très très rudes. Moi, j'ai vu plusieurs reportages photos où il y a vraiment tous les styles en fait. Hein. Je sais pas si ça correspond à des différentes bourses pour pouvoir se payer les vacances. Mais il y a des trucs pas quasi militaires, mais totalement militaires, et il y en a d'autres qui ressemblent plus à, on va dire, des camps d'entraînement sportif. Mais faut pas oublier la propagande très forte qui est là avec les gens qui encadrent les enfants.
Je voulais revenir aussi avec vous sur vos albums précédents. Il y a Les Chiens de Pripyat, qui est une histoire qui se passe à Tchernobyl contaminée avec des chasseurs d'animaux. Enfin voilà, une histoire un peu sombre. Il y avait aussi Amère Russie, là, qui a un rapport direct avec la guerre de Tchétchénie et la disparition de jeunes soldats russes. Mais on peut parler aussi de l'anniversaire de Kim Jong-il, donc qui a un album sur la Corée du Nord. D'où vous vient cet intérêt pour cette région du monde et pour cette histoire récente?
Ah bah moi, depuis très longtemps, j'ai une passion pour le cinéma russe. Le cinéma de fiction, même les premiers films de propagande qui sont très très intéressants. Il y a Quand passent les cigognes tous ces films des années 50-60 qui sont c'est très intéressant parce que on sait très bien que c'est des films qui sont soutenus par une volonté propagandiste très forte, mais visuellement on n'a jamais vu des films aussi lyriques à cette époque, quoi. Donc déjà moi ça m'avait marqué. Tout le travail de documentariste des pays de l'Est, hein, que ce soit la Hongrie, la Roumanie ou la Russie, de documentaristes qui font du cinéma direct et qui s'embarrassent pas d'une histoire et qui sont juste là pour scruter des motifs visuels, mais ces motifs sont les gens, la vie des gens, etc. Donc moi j'étais fasciné par ça, et les premiers documentaires que moi j'ai fait, j'ai essayé de retrouver ça, les premières photos, les premiers voyages aussi, même si je suis jamais allé en Russie, mais j'ai tourné un petit peu dans les pays d'Est avant. Et non, c'est une passion, et puis une passion aussi pour cette histoire cachée, qui a été découverte à la fin, quand ces totalitarismes s'écroulent. Moi, j'ai été fasciné par, par toute l'organisation, je veux dire, les goulags, rien que toutes ces choses interdites, cachées, c'est des parcours de vie qui sont absolument incroyables.
Les histoires que vous racontez, c'est vraiment des histoires de la face sombre de la Russie contemporaine. C'est pas la saga, c'est pas la grande geste de la grande guerre patriotique.
Ah, c'est un peu la même chose, hein. C'est un peu la même chose parce que Poutine y revient et puis son envie, même si c'est pas faire de grande guerre patriotique, il veut toujours une grande Russie patriotique, hein.
Oui, ça,
et
c'est...
elle veut qu'elle soit patriotique, patriotique derrière son nom à lui, quoi. Donc, je trouve qu'il y a quand même pas mal de correspondance.
Vous parvenez aussi, dans cette histoire d'adolescent, d'enfance en colonie de vacances, à glisser ça et là, pas mal de choses, pas mal de renseignements sur toute l'histoire de la Russie, parce que vous parlez des koulaks, donc la grande famine et la terreur stalinienne des années 20, vous parlez ensuite du goulag, donc là ça irrigue toute la Russie communiste, on passe ensuite à la guerre d'Afghanistan, l'histoire du sous-marin Koursk, et on finit sur Poutine.
Ouais, enfin moi ce que j'aime bien, c'est que ce prétexte de colonie de vacances, il peut vous servir par petites touches justement à raconter la grande histoire autrement, quoi. Moi, j'aime beaucoup les livres d'histoire, etc. J'en lis beaucoup, quoi. Mais le souci des livres d'histoire, c'est que beaucoup, en termes de narration, sont collés aux faits. C'est normal, c'est leur boulot de faire ça. Mais nous, en tant que lecteurs, je trouve que des fois, on manque ce petit côté empathique. Et du coup, moi, j'adore lire des livres d'histoire, mais j'adore aussi pouvoir trouver des recueils de témoignages où les témoignages sont publiés en respectant la langue de la personne qui parle, quoi. Avec ses erreurs, ses intonations et ses répétitions, même si elle répète 20 fois la même chose, c'est pas grave. Et je trouve que ces petites choses-là sont... je pense qu'elles nous permettent de nous rendre compte de ce qu'est vraiment l'histoire. Moi, je sais que quand j'étais ado, l'histoire, ça me parlait pas du tout, jusqu'au jour où j'en discute avec mon grand-père, qui a été prisonnier de guerre en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, d'un seul coup, je mettais un nom, un visage et puis un corps sur ce que pouvait être la grande histoire, quoi. Bah, et puis surtout, c'est que l'histoire, elle a pas d'incidence directe sur notre vie de tous les jours. Nous, on est sur nos écrans ou sur... À l'époque, moi, c'était dans mes bouquins, les bandes dessinées, les romans, etc. Et tout ça semblait incroyable. Par contre, ce qui me semblait encore plus incroyable après, c'est que quelqu'un à côté de moi, que je connaissais bien, pouvait avoir vécu un truc aussi grandiose, quoi. Après avoir discuté avec lui, mon grand-père s'était devenu Docteur Gilago, quoi. En 5 minutes de récit, c'était devenu, ouais, un héros absolument incroyable. Donc je pense que cette empreinte de l'histoire, quand on arrive à la poser sur quelqu'un ou quelque chose de très proche, ça devient réel. Sinon, ça reste un peu, pas du fantasme, mais quelque chose d'un peu abstrait, quoi. Moi, je me mets à la place de ces gamins. En fait, ces gamins qui connaissent rien de l'histoire de leur pays, c'était moi à l'époque, hein. D'ailleurs, je connaissais rien non plus, et puis je pense que tous les ados de maintenant, c'est pas une critique, hein, parce qu'on sait tous pareil, on connaît rien de notre histoire avant qu'elle nous rentre dedans, elle nous bouleverse un peu, sinon...
Dans chaque album de Kampoutine, on fait la connaissance avec un personnage. Dans le premier, c'est Ryabkov. C'est lui qui tient le Kampoutine, qui est un personnage un peu escroc sur les bords, très très menteur, mais qui en même temps fait attention aux enfants. Dans ce contexte, il empêche son fils, Anton, qui voudrait toujours aller plus loin, plus fort, mettre en danger les enfants. Dans l'autre, on découvre Volkov, qui est un montreur d'ours, un saltimbanque, qui vit dans un cimetière où sont enterrés les membres de sa famille. Ces deux personnages, a priori antinomiques, sont eux qui vont conduire quelque chose de très très fort dans Kampoutine. Ils vont leur apporter, malgré tout leurs défauts, beaucoup d'humanité. J'aimerais bien que vous nous en parliez, que vous nous dressiez un peu leur portrait.
Ouais, je pense que c'est le même personnage qui est coupé en deux, en fait. C'est-à-dire que y a un personnage qui, lui, qui fantasme tout ça et qui aurait vraiment aimé le vivre, et qui, du coup, projette toutes ses envies dans ce camp, jusqu'à l'appeler camp Poutine, alors que Poutine n'a jamais mis les pieds dans son camp, quoi. Il fait lui-même de la propagande d'une vie qu'il aurait aimé avoir. Et l'autre personnage, lui, a eu cette vie, et s'aperçoit qu'il n'y a pas de quoi faire de la propagande, parce que c'était terrible que ça soit... Enfin, que ce soit la guerre d'Afghanistan, d'être blessé, de revenir, de pas être intégré dans son pays. Lui, il essaye d'oublier un petit peu ce truc-là, tout en s'occupant quand même à faire qu'on n'oublie pas complètement ce gardien de cimetière qui s'occupe de maintenir un petit peu peu en état les tombes des prisonniers qui, une fois libérés, n'avaient pas le droit de repartir. C'est une manière de dégrader l'histoire un peu vivante. Mais c'est clairement c'est la même personne coupée en deux. Au début, vous avez dit que vous hésitez à savoir sur le fait si c'est un méchant ou pas, le premier. Peut-être que c'est un méchant, mais en même temps, moi j'aime bien que les méchants, à un moment, ils aient une occasion d'être pas pardonnés, mais un peu compris.
Oui, oui, tout à fait.
Faut pas excuser les méchants. Mais faut pas leur tirer dessus à boulet rouge tout le temps, quoi. C'est-à-dire que, à un moment, on se dit, ben voilà, lui, il a pris ce chemin-là, parce que, à ce moment-là, il est arrivé ça, il a choisi. On ne doit pas forcément choisir. C'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien avoir la possibilité, ne serait-ce qu'une case, ou un dialogue, de sauver un petit peu le méchant. Mm-hmm. Mais ça, je laisse à la responsabilité du lecteur. Moi, je tends la perche en disant, voilà, si vous étiez à sa place, comment est-ce que vous auriez réagi, etc. Mais je dis pas ce qu'il faut penser. J'aime bien que le lecteur se confronte à ce truc-là et qu'il se sente un petit peu mal à l'aise. Moi, j'aime beaucoup ça, quoi.
Il y a un autre personnage qui est étonnant et j'ai pas compris qui c'était. C'est l'ours qui vit avec Volkov, un ours enrhumé.
Souvent, les personnages d'animaux servent un petit peu à exprimer des trucs que les humains peuvent pas. L'ours, c'est le symbole. Enfin, pour moi, l'ours, c'est clairement Staline, quoi. C'est-à-dire que ça m'amusait de prendre l'emblème de la Russie des années 50-60, de l'appeler de la même façon, et que en fait, ce soit juste quelqu'un qui soit enrhumé en permanence. C'est une façon de se moquer du grand dictateur. Et à un moment, on retrouve une blague à propos du fait sur Staline et puis de quelqu'un qui est enrhumé. Donc, au-delà d'un clin d'œil, c'était aussi une manière de montrer que cette force brute, totalement destructrice, bien apprivoisée, elle donne totalement autre chose. Parce que cet ours, à part écraser des décors de théâtre, il écrase rien du tout, quoi. Donc, c'était une manière un petit peu de coincer un petit peu une partie de l'histoire russe, quoi.
Tous ces enfants qui sont en colonie de vacances, une colonie qui tient du scoutisme et de l'armée, ils sont dans une bulle, ils sont en pleine nature, pourtant, ils vont être rattrapés par l'actualité. Là, c'est l'actualité de la guerre en Ukraine. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va basculer. On va tomber dans une sorte de paroxysme, d'horreur, de course-poursuite. Il y a un enfant qui reste un enfant, mais un enfant qui va devenir un peu pas un tortionnaire, mais qui va devenir un petit dictateur. Et je trouve que vous arrivez vraiment bien à manipuler, en tout cas à mettre en scène ce contraste entre l'enfance et puis le moment où, justement, cette enfance peut devenir terrifiante.
Ben, puis il y avait surtout l'enjeu de l'actualité. Moi, j'aime bien quand, d'un seul coup... En fait, depuis le départ, on est dans une fiction. Moi, j'ai rencontré des lecteurs qui m'ont dit « Ouais, quand même, en ces camps-là, c'est une invention, quoi. Ça n'existe pas du tout. » Et puis, à un moment, quand ils disent le passage où, d'un seul coup, on est dans la pure actualité, ils disent « Ah non, mais peut-être que ça peut exister aussi. » Du coup, il y a un petit doute. Et moi, j'aime beaucoup ce petit doute dans les histoires. Et l'enfance, c'est un petit peu toujours pareil, quoi, mais je trouve qu'il y a un côté décomplexé dans l'enfance par rapport au choix, et où l'enfant assume totalement un choix, même s'il est mauvais. Alors que nous, adultes, on va tergiverser pendant des heures pour essayer de justifier, pour dire « oui, j'ai fait ça, parce que ça ». Non, le gosse, il fait un choix, le choix, il est fait, on s'y tient, on va jusqu'au bout, même s'il est mauvais. Et ça, je trouve ça absolument fascinant, quoi. C'est quelque chose qui me... En termes de mécanique de scénario, je trouve ça absolument génial. On se retrouve avec un gamin qui est adorable et qui d'un seul coup décide de choisir pour lui, pensant que c'est une bonne raison, de choisir un truc absolument atroce et c'est légitime à ses yeux. Et moi je trouve que un adulte, faire la même chose avec un adulte dans une histoire, on n'y croit pas une seconde.
Vous utilisez beaucoup les enfants dans vos histoires. Dans Les Chiens de Pripyat, c'est des enfants qui étaient pris en chasse par des chasseurs d'animaux. Dans L'Anniversaire de Kim Jong-il, c'est l'histoire d'un petit garçon. Dans Amère Russie, il y a des ans, il y a beaucoup d'enfants. Puis c'est aussi une histoire sur la jeunesse.
Alors, c'est rigolo parce que j'ai écrit une cinquantaine d'albums et tout le monde me dit, il n'y a que des enfants. Et à un moment, je me suis dit, pourtant, c'est peut-être vrai. Ça va finir par voir. Et en fait, j'ai compté, on en est à moitié-moitié. Je fais moitié récit sur les adultes et moitié récit sur les enfants. Mais c'est vrai que j'en fais beaucoup. Moi, c'est une période qui m'intéresse. Je trouve que c'est une période sans fin. Par contre, moi, j'ai pas de côté nostalgique de mon enfance. J'aimerais pas en venir à l'âge de mes 8, 9 ans. Moi, je dis ça, j'ai un petit garçon qui a cet âge-là, des fois, ça me déterrait pas. Mais pour d'autres raisons, pour éviter pas mal de contingences actuelles. Mais je trouve que c'est une période où tout est possible. Et que surtout, on n'a pas encore ces barrières invisibles qu'on se met nous-mêmes. et qui nous empêche de faire des choses alors que ces choses sont possibles. Quoi. Je trouve que l'enfance, il y a, c'est pas une naïveté, parce qu'une naïveté c'est trop facile de dire ça. Je trouve que ça c'est un jugement d'adulte. Je trouve qu'il y a un champ de possible plus grand parce que totalement décomplexé. Vraiment vraiment passionnant, c'est quand quelqu'un décide de faire quelque chose pour une bonne raison et que en fait ça lui retombe dessus et que ça provoque une catastrophe. Les récits antagonistes, moi c'est, j'adore ça.
Et d'ailleurs, ces enfants qui sont en colonie à Camp Poutine, mais aussi ceux qu'on va découvrir dans un autre camp à la fin du deuxième volume, ils se donnent vraiment à fond et très sincèrement à fond pour quelque chose qui nous paraît totalement dérisoire, qui est de serrer la main à Vladimir Poutine.
Pour eux, c'est très sérieux.
Ah, oui, oui.
C'est-à-dire que dans le deuxième camp, il y a un concours à gagner, quoi. Enfin, c'est pas rien. C'est presque les Jeux Olympiques, quoi. Et dans la vie, je pense qu'on est en permanence, on est en train de jouer à des concours. Mais quand on est môme, c'est très important. Moi, je me souviens de trucs que j'ai perdu quand j'étais enfant, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est terrible, c'est un monde qui s'écroule quand on perd un truc comme ça. Donc, arriver en finale là, du camp Poutine et puis peut-être pas y arriver, je comprends qu'on puisse difficilement s'en remettre.
On a presque fini de parler de camp Poutine. Il faut vraiment lire ces deux albums, et notamment il faut les lire pour les personnages. Il faut le lire aussi pour toutes les surprises qui parsèment l'album, et notamment la fin avec l'irruption de l'inattendu, l'irruption du quasi-surnaturel.
La fin de l'album, moi je suis assez content parce que je pense qu'on a réussi à faire quand on termine cet album, je pense qu'on termine sur un éclat de rire. Ça se termine par une chanson. Ça n'a pas été facile d'écrire, je vous assure. Je suis pas du tout, j'écris pas de chansons de rap, et là, c'est la première fois que j'en fais une, moi, ça m'a bien fait rire. Je pense que c'est un album, c'est un sujet vraiment peu difficile, mais c'est pas un album où, plombant, quoi. Je pense pas qu'on referme le livre en disant, c'était dur, c'était pénible, vraiment, les pauvres. Je pense que ça se termine sur un éclat de rire, quoi, et puis, un éternement d'ours.
Bah, Aurélien, je vous remercie. On se quitte donc sur un gigantesque éternuement d'ours de l'ours Staline. Je rappelle le titre de la série, c'est Camp Poutine. Il y a deux volumes. Vous êtes au scénario, donc Aurélien Ducoudray, et Anne-Laure est au dessin. Et je dois dire que le dessin d'Anne-Laure est toujours aussi enthousiasmant, toujours aussi énergétique, énergique. Voilà, chaque situation est formidablement bien dessinée, bien décrite. On est à chaque fois embarqué et on lâche pas ces enfants qui sont en colonie de vacances. Chaque album est au prix de 14,90€ chacun. Voilà, c'est quasiment donné pour de très très bons moments de lecture. C'est aussi des albums qu'on peut mettre dans la main des adolescents, même des enfants à partir de 10-11 ans. Voilà, ça se lit très facilement. Je vous remercie Aurélien et je vous dis à bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.